Bienvenue à cette rencontre qui s'intitule « Créer à l'étranger ». J'ai l'honneur de vous présenter les trois artistes qui vont participer à cette conférence, Robin Orlin, Victor de Oliveira et Arthur Noziciel. Alors quelques mots justement pour vous les présenter. Je commence par Robin. Robin Orlin, vous êtes artiste, dites-vous, plutôt que seulement chorégraphe ou metteur en scène. Vous dirigez partout dans le monde des spectacles qui mêlent la danse, la littérature et la vidéo. En France, vous avez réalisé votre premier film, Hidden Beauties, Dirty Histories, votre premier opéra avec le ballet des danseurs de l'Opéra Garnier, et votre première pièce de théâtre, Les Bonnes, en 2019, sur laquelle nous reviendrons. Dans le cadre du festival, vous présentiez, la dernière était hier, « We wear our wheels with pride and slap your streets with color. We said bonjour to Satan in 1820. » Vous êtes originaire d'Afrique du Sud et vous habitez Berlin. Arthur Noziciel, vous êtes acteur, metteur en scène et pédagogue. Vous êtes le directeur du festival TNB et du Théâtre National de Bretagne qui réunit en son sein un théâtre et une école supérieure de jeu. Vous venez de créer La Ronde d'Arthur Schnitzler au Théâtre National de Prague avec la troupe du National. Ce spectacle est repris ici. C'est un spectacle en tchèque, surtitré en français et en anglais. Vous êtes français et vous habitez Rennes. Victor de Oliveira, vous êtes acteur, metteur en scène et traducteur. Vous êtes né au Mozambique, pays que vous avez quitté à l'âge de 7 ans. Vous avez alors vécu au Portugal, où vous avez reçu une première formation d'acteur, puis à Paris, où vous êtes entré au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. À Rennes, vous présentez Limbo, deuxième volet d'une trilogie sur l'histoire de vos trois pays, le Mozambique, le Portugal et la France. C'est un solo que vous avez écrit et que vous interprétez. Vous êtes portugais et vous habitez Paris. Alors, maintenant que ces présentations sont faites, je voudrais dire quelques mots sur le déroulé de la discussion. J'ai imaginé trois étapes à cette conférence qui suivent plus ou moins un fil chronologique, de manière à ce que les spectacles qui sont présentés ici au TNB soient envisagés dans la perspective plus large des parcours de ces trois artistes volontairement tournés vers l'international. Pour éviter de parler de manière générale, je vais m'appuyer sur des éléments précis des biographies et signaler d'emblée ce que ces biographies signalent. Créer à l'étranger ne signifie pas la même chose pour chacun de vous. Pour Arthur, qui est né et qui vit en France, créer un spectacle en République tchèque n'est pas tout à fait semblable à ce qu'ont été les créations de Limbo et de We Wear pour Victor et pour Robin, ces deux dernières étant fondées sur les pays de naissance de leurs metteurs en scène. Le rapport à la langue, à la culture, à l'altérité ne peut pas être le même. Mais la question du coup vers laquelle on va peut-être dériver, c'est qu'est-ce qu'on fait alors lorsque l'on crée un spectacle dans un pays qui est le nôtre, mais dans lequel on n'habite plus ? Ou inversement, dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel on se sent davantage chez soi que dans sa propre patrie ? Je pense aux États-Unis par exemple pour Arthur. Qu'est-ce qu'on fait ? Un théâtre apatride ? Je reprends volontairement la formule de Colette Godard, qu'on pourra discuter. Un théâtre déterritorialisé, pour le dire avec Deleuze, ou peut-être un théâtre mondial. Voilà, la problématique est posée, on y va. Arthur Noziciel, je vais commencer par vous. Votre parcours est intimement lié aux pays étrangers. Et bien avant que la question de la mise en scène ne se pose, vous avez une première expérience de jeu et de recherche à l'étranger qui semble décisive aux côtés d'Anatoli Vassiliev. Je vous cite. « Dès que l'occasion se présente de travailler avec Vassiliev, je la saisis. À ce moment-là de ma vie, je porte en moi une forme de gravité. Lui demande la légèreté, la distance, l'humour. J'entretiens avec lui une forme d'échange intellectuel dans lequel je me sens bien, à ma place, libre. Et vous ajoutez, le fait aussi d'être à l'étranger, probablement. » Fin de la citation. Pourriez-vous nous dire ce que cette première expérience de théâtre à l'étranger a ouvert ? Il y a dans cette salle des jeunes artistes qui viennent de loin et qui font aujourd'hui la même expérience que vous il y a 30 ans, mais avec vous à la place de Vassiliev. Alors qu'est-ce que ça permet de jouer loin de chez soi, en dehors de salons maternels, et en quoi est-ce que ça peut rendre libre ?
Alors j'avais oublié cette phrase qui doit être dans le livre, non ? C'est ça ? Ah oui. En fait, ça faisait 4-5 ans, à ce moment-là, ça devait faire 4-5 ans que j'avais quitté une école d'acteur. Et il y a toujours eu cette attraction, cet intérêt pour aller travailler ailleurs, en fait. Mais cette opportunité de Vassiliev était venue de Valérie Dréville, qui venait déjà de travailler avec lui à la Comédie Française et qui avait réuni des amis pour lui demander de nous accueillir pendant plusieurs mois. Donc c'est très différent par rapport au workshop que les gens font là, puisque c'est 3 jours. On est parti 3 mois à Moscou, une dizaine, pour rentrer dans le processus de travail de Vassiliev, qui n'était peut-être pas le même Vassiliev d'ailleurs qu'aujourd'hui. En tout cas, Vassiliev, à ce moment-là, avait conçu un îlot, une sorte de monde dans le monde, une bulle en fait, où il travaillait à la fois, où il ne faisait pas de distinction vraiment entre l'école et le théâtre, et où... Il travaillait avec des gens qu'il allait former pendant des années avant que ça devienne un spectacle, et puis nous intégrer dans ce processus-là. Et c'est sûr que le fait d'être en Russe toute la journée, d'être déplacé aussi dans une période très particulière à Moscou, enfin à Moscou en 93-94, c'était très très particulier. Tout ça participait d'un moment vraiment privilégié, de hors du monde, quoi, vraiment. Et dans la découverte de quelque chose de très inédit à la fois de ce pays, et puis de la façon de travailler de Vassiliev, qui était hyper singulière aussi. Donc voilà, ça a été un moment comme ça très très fort. Et peut-être que j'avais déjà quand même pas mal voyagé tout seul ou avec des amis. Et je pense qu'il y avait... ça va participer au reste dans le travail. C'est-à-dire que quand à un moment je me suis... Quand j'ai fait de la mise en scène, j'étais pas sûr de continuer, mais je me souviens avoir pensé et dit à mon père, qui me demandait si j'ai continué la mise en scène après mon premier spectacle, je lui ai dit que je continuerais que si c'est à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi cette phrase est sortie comme ça, mais je ne me voyais pas du tout mettant en scène français faisant des choses en France. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais c'est, tu parlais de... Alors peut-être je digresse, mais tu parlais de la différence entre être français et créer à l'étranger ou être en France et revenir à son pays. Et dans les spectacles que j'ai faits, il y a eu ça, partir créer à l'étranger, mais il y a eu aussi créer dans des pays qui avaient à voir avec l'origine de ma famille. Donc pas moi directement, mais mes parents, grands-parents. Donc il y a des déplacements de différentes natures comme ça. Et peut-être que cette capacité à travailler à l'étranger, parce que c'était le fruit d'un désir, mais aussi d'une facilité. C'est-à-dire que c'était pas, ça peut être difficile pour d'autres gens, mais venant d'une famille en partie immigrée, et ayant beaucoup entendu quand j'étais enfant mes grands-parents parler une langue qui n'était pas la mienne, le fait d'être dans des langues étrangères est pour moi quelque chose de familier, paradoxalement. Entendre autour de moi des langues que je ne comprends pas ne m'inquiète pas, me calmerait presque. Ça a quelque chose de maternel, même si ce n'est pas ma langue maternelle, mais ça a quelque chose de l'enfance. Et je pense que travailler à l'étranger et dans des pays différents, c'est le pays, parce qu'il y a la question de la culture et de comment cette culture va imprégner le travail, mais il y a surtout la question de la langue. Et peut-être que travailler à l'étranger, c'est travailler dans une langue, c'est habiter des langues.
Mais peut-être tu pourrais nous dire très concrètement, justement, comment on travaille dans une langue qui n'est pas la sienne, comment on travaille avec des traducteurs. On va revenir précisément sur la ronde, mais tu peux nous parler de cette expérience de la ronde. Comment est-ce qu'on travaille quand ça n'est pas le même corps qui prend en charge le son et le sens ?
Ben c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de travailler à l'étranger, c'est de travailler avec d'autres corps. Et qu'il y a des formatages de corps depuis plusieurs années au niveau mondial, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est Internet, c'est Instagram maintenant, etc. Donc... tout le monde va faire de la muscu, tout le monde, enfin les corps sont en train de se transformer, donc c'est toujours bien. La Prague, c'était super pour ça, c'était de rencontrer des vrais corps, j'ai envie de dire. Mais il y a des pays où il y a des vrais corps encore. Mais sinon, en fait, c'est paradoxal parce que mon travail est vraiment basé sur le texte au départ. Donc on va dire que c'est très paradoxal de faire 6 semaines à la table sur le texte et d'aller le faire dans une langue étrangère. Mais en fait Je dirais que même quand on travaille en français, il faut l'aborder comme si on travaillait une langue étrangère. Le problème, c'est quand on travaille en français, les acteurs pensent qu'on parle tous la même langue, alors que même dans notre langue, on ne parle pas la même langue. Donc de toute façon, il y a un travail à déconstruire pour reconstruire une langue qui est une langue commune, qui est une langue qui appartient à l'ensemble des gens qui sont en train de faire ce spectacle. Et chaque spectacle est dans une utopie, en fait. C'est de créer un monde où tout le monde parle la même langue. Mais même dans notre langue, on ne se comprend pas toujours. On n'a pas les mêmes histoires et les mêmes définitions derrière les mots. On n'a pas la même sensibilité à l'écriture. Donc de toute façon, après passer dans une autre langue, ça me fait gagner du temps, bizarrement. C'est-à-dire qu'avec les acteurs français, je suis vraiment obligé d'insister sur cette dimension. Alors que quand je travaille à l'étranger, les acteurs acceptent d'entrée de jeu qu'on ne parle pas la même langue et qu'il y a un problème de traduction. Donc en partie, ce qu'ils mettent, c'est de dire, tenez, on va retraverser la traduction ensemble. Ce qui est en fait un truc qui me permet de re-questionner les mots, la structure des phrases, la musicalité, etc. Ce qui permet de retraverser avec eux la traduction, dans le sens fort du terme, c'est-à-dire le déplacement de la langue dans une autre, pour un nouveau texte dans leur langue. Et moi, ça me permet de rentrer dans la pensée de la langue et donc dans la culture, en fait. C'est-à-dire, ce qui est beau dans le fait de créer à l'étranger, c'est que c'est pour moi, c'est vraiment le meilleur accès un des meilleurs accès pour rentrer dans une culture, puisqu'on rentre dans la langue et donc aussi dans la pensée, dans la façon de considérer le monde ou de le nommer. Donc ça raconte beaucoup sur le pays où on est et sur les acteurs et les actrices avec qui on est, qui partagent beaucoup ça. Donc c'est une façon de rentrer vraiment dans l'intérieur de la psyché, dans l'inconscient aussi, dans l'imaginaire. Et donc tout ce travail qu'on va faire en amont de traduction, d'écriture, est une sorte d'entrée un peu magique dans une autre culture. Mais je dirais ça comme ça. Mais après, c'est vraiment pas un souci pour travailler avec les acteurs. Dans la direction d'acteurs, on m'interroge souvent par rapport à ça. Mais l'acteur, c'est la voix aussi, c'est le corps, et ça ne trompe pas, c'est la vérité de la voix. Donc si on cherche quelque chose qui a à voir avec, oui, la vérité, enfin, c'est un mot un peu énorme comme ça, mais c'est quand même de cette chose-là qu'il s'agit. La vérité, on la sent, on l'entend dans toutes les langues, quelle que soit la langue, ça résonne d'une certaine façon, ça se reconnaît immédiatement quand c'est vrai.
Robin, Victor, je vais vous poser la même question, puisque jeune, vous avez aussi quitté vos pays d'origine pour aller redécouvrir votre discipline ailleurs. Robin, vous avez choisi d'étudier la danse à l'étranger après y avoir été formée en Afrique du Sud. Vous êtes partie aux États-Unis. Qu'est-ce que ce voyage et cette redécouverte de la danse aux États-Unis, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a changé et à quoi la danse classique était-elle associée en Afrique du Sud?
I went to study in England at the London School of Contemporary Dance on a scholarship because there was nothing in South Africa at the time. It was the time of apartheid. There was only classical dance, and there was no space for contemporary dance.
Donc, je suis allée étudier la danse en Angleterre puisque j'ai reçu une bourse. Donc, je suis à l'école contemporaine pour la danse classique, puisqu'à l'époque en Afrique du Sud, c'était l'époque de l'apartheid, comme vous pouvez l'imaginer, et donc forcément il n'y avait pas grand-chose en fait pour tout ce qui est danse classique ou art contemporain.
So when I went back to South Africa after my four or five year study in London, I realized that my training was like classical dance. There was no place for it in South Africa. Nobody was looking for Diversion of Angels and Clytemnestra, and I mean, it wasn't working. So I had to start working with the community. So I was forced to break barriers.
Donc ensuite, quand je suis retournée en Afrique du Sud, après 4 ou 5 ans passés à Londres, je me suis rendu compte en fait que j'avais été presque exclusivement formée en danse classique, ce qui n'était pas vraiment très recherché en fait en Afrique du Sud. C'était pas, on travaillait pas vraiment avec des danseuses classiques à l'époque. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je commence à travailler avec la communauté.
My work in South Africa has always been political. I don't think you can... As an artist during apartheid, you cannot be political. even if you don't comment on the politics, even if you do a still life with oranges, that becomes political.
Et donc, quand j'ai commencé à travailler en Afrique du Sud, c'était forcément toujours politique. Je ne pense pas qu'on puisse être un artiste qui travaille en temps d'apartheid et toujours travailler sur des... Enfin, chaque chose que l'on fait a toujours une raison politique derrière. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire des commentaires ou autre. Il fallait quand même faire attention.
So, I don't really come from a language situation. I come from a social situation. I'm informed by my environment as an artist. Language is important because there are moments in dance where the body can't say certain things, and that's when I work with language.
Et donc, en fait, pour moi, ça n'a pas toujours, tout n'a pas toujours tout tourné autour de la langue. On est plutôt ici sur du social. Je m'informe vraiment, je me nourris en fait de l'environnement dans lequel j'évolue. Mais la langue reste pour moi un élément très important parce qu'en danse, parfois, le corps ne permet pas d'exprimer tout ce que l'on a envie de dire.
I promise next time I do this, I'm going to speak French.
Et promis, la prochaine fois, je le fais en français.
Ou en Dutch.
Ou en néerlandais.
I don't speak good Dutch. So I was very involved in the struggle in the discourse around bringing down apartheid. But towards the end, I realized that it was no longer my struggle.
Donc en fait, dès le début, j'étais vraiment très engagée, très impliquée dans la lutte contre l'apartheid. Mais au final, j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas mon combat.
So I applied for a Fulbright scholarship in America to study fine art. I'd had enough of dance.
Et donc j'ai envoyé ma candidature pour recevoir une bourse pour les États-Unis pour étudier les beaux-arts.
I went to the school the School of the Art in Chicago.
Donc j'étais à l'école d'art de Chicago.
And did my master's in fine art.
Et donc j'ai fait un master en beaux-arts.
And discovered the camera.
Et c'est là que j'ai découvert la caméra.
So that is, I mean, that's really why I make what I make, what I do, what I do.
C'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait.
I like to work with actors, I like to work with professionals, I like to work with non-professionals.
J'aime beaucoup travailler avec des acteurs, avec des professionnels, mais également des amateurs.
I like to work with dancers, I like to work with architects, poets, musicians. I will work with whatever material is in front of me.
J'aime beaucoup aussi travailler avec des danseurs, des architectes, des poètes, des musiciens. En fait, peu importe, j'aime travailler avec tout type de personnes.
So that is my language. My language is all encompassing.
Et ça, c'est mon langage. C'est la langue que j'ai choisie.
C'est tout.
Merci. Et Victor, je vais vous interroger à votre tour sur votre parcours. Le Mozambique natal, vous le quittez pour des raisons politiques. La guerre éclate. Vous avez 7 ans. Vous allez au Portugal. Mais qu'est-ce qui vous conduit, alors que vous commencez une formation d'acteur au Portugal, qu'est-ce qui vous conduit à faire un voyage vers la France pour continuer la formation en théâtre ?
Bonne question. C'est difficile à répondre parce que c'est pas. C'est-à-dire que quand nous sommes partis du Mozambique, c'était vraiment le début de la guerre civile et c'était extrêmement compliqué parce qu'on vivait dans un régime marxiste-léniniste extrêmement dur. Il y avait à la fois la joie parce que c'était le début de l'indépendance et après il y avait l'horreur de début de la guerre. Il y avait toutes les ingérences parce que la guerre civile a commencé par des ingérences d'autres pays, le Portugal, l'Afrique du Sud et la Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe. Et tout ça était extrêmement compliqué. Et surtout aussi, ce qui était très compliqué, c'était la place de ce qu'on appelle, et je parle de ça dans Limbo, des métis, donc, qui était vraiment un point essentiel de la colonisation portugaise, qui est très différente de tous les autres pays, toutes les autres colonisations, donc de d'autres pays. En Afrique. Et cette place-là était tellement compliquée que pour mes parents, parce que donc je suis fils de métis, petit-fils de blanc, de noir, de indien, chinois, donc enfin juif, portugais, enfin, tout ça c'est tellement mixé. Mais à ce moment-là, dans l'indépendance, dans le post-indépendance d'un pays africain. Et c'est très compliqué parce qu'on avait l'image que tous ces gens-là, enfin les métis, c'était des enfin un peu comme les pieds noirs pour les Français, mais sauf qu'il y avait autre chose qui était la couleur de peau, puisqu'en fait c'était des enfants qui avaient été des enfants des femmes noires qui avaient couché avec les blancs. Donc toutes ces histoires là étaient extrêmement compliquées. On a été un peu expulsés et mis dehors, fuit la guerre, on est passé par l'Afrique du Sud, donc à Johannesburg, sauf qu'évidemment c'était pendant l'apartheid et c'était un autre horreur, mais pas exactement la guerre, mais c'était une autre guerre. Et ensuite on est allé au Portugal parce que mon grand-père, donc mes deux grands-pères étaient portugais, et mon père pendant la colonisation avait travaillé en tant que fonctionnaire, puisqu'il était métis. Donc, et c'est ça aussi la différence de classe, parce que les métis avaient le droit de faire des choses que les Noirs n'avaient pas le droit, d'où toute cette histoire de haine et de tension permanente. Donc, et du coup, quand on est allé au Portugal, c'était extrêmement compliqué parce que moi, je n'avais absolument rien demandé, mais mes parents non plus, mais on est arrivé là-bas parce que c'était le seul endroit où on pouvait être, où on a été aidé. Donc, mais on était quand même d'une certaine façon, dans la terre de nos colons. Et c'est cet entre-deux dont je parle un peu dans Limbo. Et pour ma prochaine création, il y aura quelque chose de ça. C'est entre-deux, entre deux races, race avec beaucoup de guillemets, j'en parle dans Limbo, entre deux pays, entre deux couleurs. Donc cet entre-deux devient tellement difficile à tenir pour, non pas... pas simplement pour un enfant, mais ensuite pour tous les gens avec qui on était. Et c'est cette chose-là qui est compliquée. Donc, le Portugal, c'était parce que j'ai été, parce que mes parents y étaient, parce que c'est l'endroit qui nous accueillit, mais je ne me suis jamais senti vraiment à ma place. Donc, et quand j'ai commencé à regarder, j'étais vraiment assez traumatisé, j'étais complètement enfermé, et je faisais école, maison, maison, école, et c'est... À la maison, ma seule échappatoire était les films américains. Donc du coup, parce qu'en Portugal, tout est en VO, rien n'est doublé. Donc du coup, les films américains étaient ma porte de sortie. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre à 16 ans au lycée, c'était parce que c'était le cinéma, parce que je ne connaissais absolument pas le théâtre. Personne de ma famille n'est jamais allé au théâtre. Donc c'était parce que c'était le cinéma. Mais toujours on est en lien avec l'extérieur, surtout avec les Afro-Américains qui étaient toute la culture qui dans lesquelles on a grandi. Donc que ce soit au Mozambique, que ce soit au Portugal, c'est ce lien-là avec la culture afro-américaine, enfin toute la musique que j'écoutais et avec laquelle j'ai grandi était la musique noire américaine, absolument toute, donc jusqu'à 16 ans. À 16 ans, avec le théâtre, quelque chose s'ouvre, mais même dans ce rapport-là, donc de cette ouverture, c'était pour aller ailleurs. Et Paris est venu, la France est venue, parce qu'à l'école d'acteurs où j'étais à Lisbonne, j'ai eu des intervenants français qui m'ont parlé donc, des écoles en France, et je me suis dit, bon... d'aller tout de suite à New York, ça va être très compliqué, je suis très jeune encore. Donc j'ai commencé par aller d'abord à Londres, à 19 ans, mais c'était extrêmement difficile, c'est une ville extrêmement dure. Donc c'était compliqué, je suis revenu, ensuite j'ai fait une école à Lisbonne, et c'est là que j'ai rencontré des intervenants, et du coup j'ai essayé Paris, et ça a marché. Mais quand je suis arrivé, pour moi c'était Paris, c'était évidemment la ville du cinéma, la ville du théâtre, la ville des grands auteurs, la ville de l'art, mais j'étais... J'étais complètement, enfin, pas vraiment perdu parce que c'était, mais avec une énorme nécessité d'être le plus vite possible en lien avec les gens. Donc c'est pour ça que je travaillais, mais tous les jours la langue, tous les jours. J'avais une chambre à la Cité universitaire à Paris, et tous les soirs, je m'enregistrais, il y avait encore des cassettes, je m'enregistrais, j'écoutais. Donc j'avais des professeurs, j'avais François Regnault qui était un professeur qui adorait donc la langue et qui adorait entendre les étrangers parler, jouer des alexandrins avec des accents. Donc qui me disait, mais il faut que tu commences par lire tout Claudel. C'est comme ça, je lisais tout Claudel et je me suis enregistré en lisant à haute voix. C'est une façon d'entrer dans la langue, d'entrer dans la rythmique de la langue et de chercher par là qu'est-ce qui peut être juste. Tout à l'heure, Arthur Nuziciel parlait de cette chose de vérité dans les langues qu'on domine à peu près ou pas exactement et comment j'arrive par l'oreille à saisir ça. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment l'oreille qui me donne la justesse. Donc j'essaie de tenir sur mes oreilles pour arriver à trouver cette justesse-là. Mais voilà, tout ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, c'est cette digression sur qu'est-ce qui fait que je ne sais pas. Après, je suis toujours tourné vers les autres et les autres pays et les autres langues parce que je suis un exilé et je le serai toujours. Donc, et cette chose est là.
Merci. Je vais rebondir tout de suite avec votre premier spectacle, justement, sur ce dialogue entre les deux langues. Arthur Nuziciel, le premier spectacle, c'est le Malade imaginaire. Vous le montez en France, mais avec le soutien de l'AFA, il part à l'étranger, longtemps, en Russie, en Géorgie, en Islande. Il tourne pendant plusieurs mois et vous choisissez de donner systématiquement un rôle, celui d'esprit Madeleine Poquelin, à une actrice étrangère. Et donc, au milieu du spectacle, le spectacle est ouvert en deux avec l'apparition d'un fantôme, mais l'effet d'étrangeté, si j'ose dire, est doublé parce que ce fantôme parle une langue étrangère au spectacle lui-même. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous cherchiez, ce qui se jouait pour vous dans ce dialogue entre deux langues?
Ben en fait, la langue était, enfin, ça produisait un effet d'étrangeté pour les Français, mais en fait, on était à l'étranger, donc en fait, la langue étrangère était la langue des gens qui étaient dans la salle. Donc l'effet d'étrangeté était l'inverse, c'est-à-dire pour l'effet d'étrangeté, d'un seul coup, au bout d'une heure et demie, d'entendre leur langue. Mais ben oui, parce que ce qui m'intéressait vraiment dans le fait de faire du théâtre, c'était encore une fois, c'était de le faire à l'étranger. Et donc, je m'étais dit, si j'ai cette tournée en Russie, je vais en profiter pour intégrer une comédienne russe. Donc, je passerai un peu plus de temps et on travaillera ensemble et on passera plus de temps à y travailler, en fait. Donc, c'était aussi un moyen d'être plus longtemps dans le pays où on travaille et de ne pas être juste dans une logique de diffusion. C'est-à-dire, on ne vient pas juste montrer son travail. On y vient, mais on y reste un peu et on crée des liens et on travaille avec les gens. Et on implique d'autres gens. Enfin, moi, ça me semble important. On crée des communautés quand on travaille. Et puis, par ailleurs, ça avait un sens dramaturgique, puisque la pièce était justement sur le fantôme, sur la fille inconnue, sur la question de la transmission. Et donc, il y avait ce monologue pris en charge par l'actrice russe ou islandaise. Mais à un moment, elle communiquait avec un acteur en français. Et c'était très, très beau d'entendre un acteur et une actrice parlaient chacun leur langue, mais donnant le sentiment qu'ils se comprennent parfaitement, et avec, je pense aussi pour le spectateur, l'impression de comprendre quelque chose, et de manière un peu vicieuse, je supprimais le surtitrage à ce moment-là. Et donc, tous les gens étaient au même point, tous les spectateurs étaient au même point, personne ne comprenait une partie de la scène, mais ça permettait de garder à la scène aussi une partie de son secret, puisqu'on assistait à quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Et donc, en même temps qu'on révélait quelque chose par la langue étrangère, on l'empêchait pour d'autres. Ça jouait pour ça. Mais ensuite, le fait de... Je l'ai refait sur ce spectacle. Et puis après, c'est vrai que ça a été tout de suite après les États-Unis et Black Battles with Dogs, qui était l'adaptation en anglais de Combat de nègres et de chiens, qui n'aurait pas dû être Combat de nègres et de chiens, qui aurait dû être Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès, qui est une pièce que je préférais. Mais, et c'est là que j'ai compris aussi quelque chose sur la façon de comment j'avais envie de travailler, c'est comment on relie ce qu'on fait à un contexte. Et donc, j'ai pas l'impression de faire un théâtre hors sol. C'est-à-dire que je m'étais dit, le retour au désert à Atlanta, ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, on était avant les Twin Towers. Donc la question des conséquences de la guerre d'Algérie dans la province française des années 60, à Atlanta, je ne voyais pas comment on allait faire le lien. En revanche, Combat de Maigret Chien, qui pose la question de la peur que va susciter la présence d'un ouvrier africain sur un chantier de blanc, dans la ville de la ségrégation raciale aux États-Unis, oui, d'un seul coup, il y avait quelque chose qui me semblait beaucoup plus pertinent. Et donc, je dirais que tout ce que j'ai pu construire à l'étranger s'est nourri de la ville, du pays, de la langue, de l'histoire politique, du lieu où j'étais. Et donc, on ne choisit pas les mêmes projets pour Boston et pour Atlanta. Et Combat Maigret Chien, c'était Atlanta. Et quand j'ai travaillé à Boston, j'ai fait d'autres choses. Mais je pense qu'il y a toujours un lien, c'est important qu'il y ait un lien, parce que c'est quelque chose qui va ensuite être inspirant, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer des liens, des connexions avec cet environnement, avec l'histoire de cet environnement, comme quand Jules César de Shakespeare m'avait été demandé à l'American Repertory Theater à Boston, c'était l'année d'élection, et j'avais bien compris que s'il me demandait de faire Jules César, c'était parce qu'on sortait des années Bush et qu'il voulait un spectacle qui parle de ça, finalement. Mais c'était comment, évidemment, contourner un peu cette évidence. Mais le théâtre est des années 60, c'est la ville de Kennedy, on est dans la construction d'un modèle politique qui est inspiré de l'Empire romain. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que d'un seul coup, ça m'a donné des lignes fortes, esthétiques et politiques et dramaturgiques pour la création. Je n'aurais pas fait Jules César de la même façon si je l'avais créé à Paris, évidemment. Mais en revanche, ce que j'ai toujours fait de tous mes spectacles étrangers, américain, islandais, norvégien, russe, je ne sais même plus en quelle langue, tchèque, c'est que je les ai toujours ramenés en France. Et que quelque part, le retour de ces spectacles en France, c'est aussi une façon de partager avec un public français une expérience, mais aussi, quelque part, faire une espèce de transfert du sens. Et un spectacle va se lire d'une certaine façon dans un contexte, un pays, à une certaine période, mais va se lire autrement dans un autre contexte et une autre période. Et là, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est justement de les jouer dans la durée. Et si je prends le cas de Jules César, c'était intéressant, ce spectacle créé aux États-Unis en sortant des années Bush, et où arrive un jeune démocrate, Barack Obama, en rivalité avec Hillary Clinton, qui avait ça dans Jules César, cette promesse-là, et que quand on l'a repris, par exemple, au TNB, 8 ans plus tard, c'est Trump. Et d'un seul coup, toute la pièce se transforme et devient comme quelque chose qui s'inverse réellement pour les interprètes et pour les spectateurs.
Robin Orlin, en 2019, vous montez Les Bonnes en France, et avec 3 acteurs français. Et vous ne faites pas traduire le texte, vous le maintenez dans son originalité. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce projet qui est très singulier, puisque c'est le seul projet de théâtre dans toutes vos aventures artistiques, c'est le seul projet de théâtre sur un texte donc, qui a une langue très particulière, celle de Genet. Qu'est-ce que ça a changé, justement, je ne sais pas, en termes de rapport au rythme, de corps, qu'est-ce que ça a changé de travailler dans la langue de Genet, non traduite, encore une fois.
Well, I mean, I don't really see myself as a theater director.
Alors en fait, je ne me vois pas vraiment comme une metteuse en scène.
Les Bonnes was a specific play that my mentor directed in South Africa when I was very young. My mentor is the late Barney Simon. And I couldn't understand why the play was with white women. I was 14, it was the height of apartheid. The story was about maids. I really couldn't understand why it was with white women and very hysterical white women.
Alors, Les Bonnes, c'est une pièce assez particulière qui avait été en fait mise en scène par mon mentor quand j'étais jeune, mon mentor Bonnie Simon. Et À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des femmes blanches qui étaient dans cette pièce. J'avais 14 ans à l'époque, c'était le pic de l'apartheid, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des femmes blanches qui jouaient cette pièce.
So I'm getting old now, and I decided that it was time for me to try my hand to direct this play.
Je vieillis et je me suis dit que c'était maintenant le bon moment pour moi de mettre en scène cette pièce.
So I went back to the source, I went back to Genet's writing, and I always had this haunted memory of the movie that Genet made in jail, which I saw when I was very young. And I was fascinated with Genet. I did a bit more research and read that Genet wrote this play in jail, and it was meant to be performed by men.
En fait, je suis retournée à la source, je suis revenue aux écrits de Genet, et je me souvenais du film que Genet avait produit quand elle était en prison. Je l'avais vu quand j'étais très jeune, et j'ai toujours été fascinée par son travail. Et j'ai fait davantage de recherches et je me suis rendu compte que Genet avait justement écrit cette pièce quand elle était en prison et qu'elle avait été écrite pour des hommes.
So I went about doing it in French, with French actors and with men. And that's how the piece transpired. But in the back of my mind, I took an old movie that was made by a British director who's not at all well known, and I can't remember his name because I'm getting old. But I showed this movie to the actors with Glenda Jackson and who else was in it? I can't remember. Another famous British actress, actor, was in it. And It was a movie of the play, and I mean Glenda Jackson is a brilliant actor, and so was her counterpart. But there was a kind of a hysteria that was very upper class, and I realized, and I don't mean to critique their acting, but I realized that it didn't come from a working class situation. There was a hysteria that I couldn't stand. So you better translate.
Alors j'ai ensuite décidé de mettre en scène cette pièce en français avec des acteurs français, donc des hommes. Et c'est comme ça que j'ai réussi justement à faire transpirer finalement le texte de Genet. Et j'avais aussi dans le coin de ma tête un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune également. Alors je ne me souviens plus du nom du metteur en scène, il était britannique, mais je vieillis comme je vous l'ai dit, donc je ne m'en souviens plus. J'ai montré ce film à mes acteurs, et il y avait aussi plusieurs acteurs très connus, des acteurs britanniques, je ne me souviens plus trop de leur nom, je sais qu'il y avait Glenn Jackson. Et en fait ce film m'a beaucoup aidé. C'était un film qui s'inspirait de la pièce. Glenn Jackson était vraiment brillant dans ce film. Et dans ce film, il y avait la notion de l'hystérie, cette hystérie qui était liée à la classe supérieure. Et en fait, bon, je ne voulais pas critiquer le jeu des acteurs, mais je n'étais pas du tout d'accord avec cette hystérie autour de la classe supérieure. Il n'y avait pas du tout la classe ouvrière, et je ne me retrouvais pas du tout dans ce film.
So I worked with two French black actors and one white actor as Madame. Genet's writing in either French or translated into English, and they are very good translations, are very good. But I was really making this piece for France. I wasn't making it for outside France. And if it ever goes outside France, I will have to rethink how I want to make it. Do I just translate it into English, or do I have subtitles for English, subtitles for German, Chinese, Japanese, what, you know, so but for me, the resonance was, this is still France today. This is still the France today, as much as a lot of French people don't want to accept this.
Donc j'ai décidé de travailler avec deux acteurs français, noirs, et une actrice française, blanche, pour le rôle de Madame. Il y avait de très très bonnes traductions de cette pièce, mais moi je voulais vraiment mettre en scène cette pièce pour la France, en français. Je ne voulais pas du tout la traduire et je ne voulais pas non plus l'exporter à l'étranger. Et si elle venait à être exportée à l'étranger, évidemment, je devrais vraiment réfléchir à la manière de faire. La traduire entièrement en anglais ou dans une autre langue, ou y ajouter des sous-titres en anglais, en allemand, en japonais. Mais pour moi, vraiment, c'est une pièce qui reflète la France d'aujourd'hui, encore la France d'aujourd'hui, même si les Français ne veulent pas l'accepter.
It was an incredible experience for me. I had an assistant who was excellent at translating for me. She was really fantastic. The actors were incredible. I mean, in the beginning they couldn't speak English, but at the end they were all speaking English very fluently. But it, for me, it was an amazing experience because in the beginning they started moving, you know, because they knew I was a choreographer, and I said no. No, listen to the words. React. Let your body react to the words. Don't start dancing because, you know, I'm a choreographer. And eventually they got it.
Pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'avais une assistante qui servait également d'interprète, qui a fait un travail fantastique. Les acteurs étaient aussi merveilleux. Alors au début, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Et puis à la fin, ils étaient complètement bilingues. Et comme je le disais, une expérience incroyable pour moi. Au début, c'est vrai que les acteurs avaient tendance à bouger un petit peu parce que, vous savez, je suis chorégraphe. Et moi, je leur ai dit non, ne bougez pas, laissez votre corps s'imprégner des mots et se laisser influencer par les mots. Je voulais vraiment qu'ils se concentrent sur les mots avant tout.
But I threw them as well because they did the whole play with their back to the audience and one camera at the very back of the stage. And I encrusted them into the bad movie. I rubbed out Glenda Jackson and all the other actors, and I encrusted them into, that became my set. So, I mean, they were shocked. It took them a long time, not because they couldn't work off the audience. They had to work off their images of themselves. And although a lot of people say actors, performers are very narcissistic, they can't always watch themselves all the time. So it was for me, it was a very, very interesting experiment, which worked, I think.
Donc j'avais un décor assez particulier. Il y avait en fait une caméra qui était au fond de la scène, et en fait, au fond de la salle, et en fait, cette caméra jouait avec le public et les acteurs également. Et il y avait aussi, en fond, le film avec l'acteur que j'ai mentionné tout à l'heure. Et les acteurs étaient assez choqués au départ, parce qu'ils devaient travailler avec leur propre image. Et bien qu'on dise souvent que les acteurs sont parfois narcissiques, ils ne peuvent pas travailler constamment avec leur reflet, leur image. C'est trop difficile pour eux.
Just to add to that, because I start to work now more and more in real time, the composer and the musician took the sound from the movie, the music from the movie, and in real time on the side of the stage was recreating sound. And it's the beginning of actually what you see now with the rickshaws. It's a beginning of a very different way of working for me.
Et en fait, je travaille de plus en plus en temps réel. Alors, sur scène, nous avions en fait un compositeur et un musicien qui repassaient aussi les musiques du film. Donc, ainsi, on pouvait recréer des sons sur scène. Donc, c'était vraiment en temps réel. Et c'était vraiment les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui avec les rickshaws.
So, Genet's writing worked for me in French. It was all encompassing. To sum up.
Donc pour résumer, les écrits de Genet pour moi devaient être en français. C'était vraiment là la base de tout mon travail et l'essence de mon travail.
Oui, mais je voudrais rebondir moi en vous posant une question parce que on comprend très bien justement votre volonté d'être au plus près de Genet en vous maintenant dans sa langue, en choisissant des acteurs justement pour les rôles de Claire Solange et Madame. Tel que Genet le voulait. Alors on voit bien comment dramaturgiquement, comment littérairement le projet est, vous le concevez, mais concrètement, quand vous arrivez face à une équipe et avec laquelle vous ne parlez pas la même langue, est-ce que des difficultés se posent et est-ce que plus, je veux dire, est-ce que ne pas parler la même langue que ces interprètes redistribue d'une manière ou d'une autre la question du pouvoir du metteur en scène face à son équipe?
Very good question. I always work off the people that I work with. So I work off the actors, the text, the visual, the sound, the body. Everything is happening at the same time. And as much as the actors are discombobulated, I'm also discombobulated. And so we start on a very level plane, and I become just as vulnerable as the actors. And this is good for actors. I don't think it's good for dancers. Dancers freak out. But it's very good for actors. And that became the source of working. And we worked with each other. There's a connection. There's a kinetic. Something happens in this situation, which is, it's very beautiful. Really what's happening for me, oh God, translate.
Alors, par où commencer? Parce que cette question est très difficile. Alors, moi, il faut savoir que je pars toujours des acteurs, du texte, des corps. C'est par là que je commence. Et en fait, tout a lieu finalement en même temps. Et si les acteurs sont complètement confus ou déconcertés, eh bien, sachez que moi aussi. Et donc, finalement, nous sommes sur un pied d'égalité. Et donc, je deviens aussi vulnérable que mes acteurs. Alors, ça marche bien pour les acteurs. Pour les danseurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont tendance à un peu paniquer. Et donc, c'est devenu vraiment la source de mon travail. On travaille ensemble. Il y a une véritable connexion qui se crée, quelque chose qui se passe. Et c'est très joli à voir. Il y a toute cette approche kinétique aussi qui a lieu. Et c'est vraiment très, très joli à voir. Et on est sur un pied d'égalité.
Now, if you say, I forgot what I was going to say. I have to speak French. J'ai
oublié le reste de la question, pardon.
There are really no power struggles, and I think this is if we speak a different language, if there's power, there are barriers. If there is an openness and a humanity, you find a way. One finds a way.
Alors, je dois vraiment me mettre au français, hein. Mais il n'y avait pas en fait de lutte de pouvoir, pas du tout, et si on parle une langue différente, alors on est sur un pied d'égalité. Et si il y a des luttes de pouvoir, des pouvoirs différents, alors ça crée des barrières. Alors qu'ici, on se concentre sur l'humanité.
Victor, Limbo est le second volet d'une trilogie. Le projet 1 était Incendie, de Mouawad, que vous avez traduit vous-même du français au portugais. Comme acteur, vous aviez joué Incendie, sous la direction de Stanislas Nordet, en français. Est-ce que la traduction vous a fait redécouvrir le texte et qu'est-ce qui a changé dans cette traversée d'une langue à l'autre? Dans votre rapport au texte,
oui,
j'entends.
En fait, petite précision, parce que je n'ai pas traduit Incendie. En fait, ça avait été traduit en portugais par une traductrice portugaise. Ça n'avait jamais été vraiment joué au Portugal et c'était la première fois, mais ce n'est pas moi qui ai traduit. Mais ce qui était extrêmement très fort, c'était justement parce que je connaissais ce texte par cœur, parce qu'on avait pas mal joué entre 2012 et 2016. On l'a joué ici d'ailleurs, au TNB. Et je connaissais pas simplement ma partition, je connaissais la partition de tout le monde, je connaissais toute la pièce. Donc tout d'un coup, de voir ce texte-là en portugais et ensuite de l'amener au Mozambique et de le voir dit et lu par des acteurs mozambicains et de rendre cette histoire l'histoire du Mozambique. Donc, parce que encore une fois, c'est comment à partir du moment où on est dans un autre pays. Et encore, la différence avec Arthur, par exemple, c'est que quand je vais au Portugal travailler, quand je vais au Mozambique, je suis chez moi. Je suis pas ailleurs, je suis chez moi. C'est-à-dire que je suis vraiment, les gens me regardent et m'accueillent comme étant mozambicain, portugais, et je suis chez moi, même si je n'y habite pas. Et ensuite, c'est de voir comment cette histoire qui vient d'ailleurs, elle devient la leur. Et on a eu la chance que l'histoire de la guerre civile au Liban était à exactement la même période que Mozambique, entre 77, 78, 92. Et après, malheureusement, les horreurs de la guerre, elles sont les mêmes partout, au Liban, au Mozambique ou ailleurs. Et ce qui était important, c'est de voir comment ça résonne chez eux, et que c'était extraordinaire. C'est la première lecture que j'ai faite avec toute l'équipe, un an avant le début des répétitions. C'est d'arriver à la fin de la lecture avec tout le monde et de voir les deux comédiennes les plus âgées tomber en larmes parce que, en me disant, voilà, ça c'est notre histoire. Donc voilà. Et à ce moment-là, je savais que c'était juste, que le fait d'amener cette histoire au Mozambique, pour moi, était pleine de sens, parce que ça aurait été très difficile pour moi d'amener quelque chose qui soit comme imposé et qui ne parle pas du pays. Donc, quand on l'a fait, ça s'appelait Incendios, c'était vraiment l'histoire du Mozambique. Et quand on l'a joué à Maputo, c'était extraordinaire, parce que tout le monde reconnaissait ces histoires, tout le monde reconnaissait ces personnages, il les connaissait vraiment. Et ouais, je dis moi, personne ne connaît et personne ne connaît toujours pas. Donc cette histoire, c'est la leur. Et ça, c'est extraordinaire dans les textes qui ont quelque chose d'universel. Et aussi, évidemment, ça dépend de la façon comment on les prend et comment on les travaille. Ensuite, ce qui était aussi très très fort, voilà, c'est de cette autre langue qui est aussi ma langue maternelle. De m'échapper du travail qui a été fait donc avec un metteur en scène français qui en plus travaille beaucoup sur la langue, sur une langue française qui n'est pas ma langue maternelle, qui devient aujourd'hui la langue que je parle le plus souvent. Donc comment tout ça se mélange et comment on travaille toujours pour essayer d'être au plus proche du sens et de la vérité des personnages et de l'histoire, comment on raconte l'histoire ensemble. Et qu'on avance dans le bon sens. Donc ça, c'était extrêmement fort. Donc, et après, j'étais curieux de voir comment ça allait être reçu en France, parce que c'est un texte que tout le monde connaît, il a tellement été joué. Et c'était super, parce que les gens, au bout de 10 minutes, on me disait, mais on a oublié que Mawad, le Liban, on est vraiment avec eux. Et ça, c'était très, très drôle, parce que c'était réussi, parce que c'était leur histoire, vraiment, c'était leur histoire. Enfin, notre histoire. Et c'est évidemment, quand je travaillais avec eux, ça parlait de ces années que j'ai passées au Mozambique pendant la guerre civile. Donc ça aussi, c'était aussi mon histoire. Et j'ai gardé deux moments qui étaient deux moments qui n'étaient pas vraiment dans le texte, où les comédiennes parlaient en shangane. Shangane, c'est une des langues du Mozambique. Au Mozambique, il y a une vingtaine de langues. Et ces moments-là, c'était très drôle, parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à travailler, enfin, qu'on est arrivé à ce moment et que la comédienne commençait à chanter en shangane, je m'effondrais en larmes. Et je me dis, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai compris à un moment donné, c'est que ça faisait directement lien avec ma grand-mère, qui était interdite pendant la colonisation, on n'avait pas le droit de parler les langues indigènes, comme on disait. Donc, ma grand-mère me disait, elle me parlait dans sa langue, donc en scène et en shangane, et il me disait, mais tu dis pas à ton père, hein, parce que... Donc du coup, cette chose-là de l'interdiction de la langue maternelle, justement parce que c'est ma grand-mère, tout d'un coup, avec cette comédienne à Maputo qui chantait en shangane, quelque chose arrive qui me dépassait complètement. Et cet endroit de la langue et de la raison pourquoi on fait les choses quand on va ailleurs, et comment on travaille avec les gens et comment on travaille avec nous-mêmes, parce que c'est la même chose. Comment je travaille pour à partir du texte de Wajni, mais avec ces gens-là, à cet endroit-là, c'est extrêmement, enfin pour moi en tout cas, c'est extrêmement important, parce que c'est fondamental, parce que sinon je ne vois pas pourquoi j'irais faire des choses à droite ou à gauche. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je suis à cet endroit-là. Donc du coup, avec Limbo, c'est encore une je creuse davantage encore cette histoire-là, et avec les sables de l'Empereur, on va aller encore plus loin, parce que toute une partie, donc c'est le projet que je vais faire l'année prochaine, toute une partie du texte sera jouée en Shangan. Et ça, c'est pareil. C'est là, tout d'un coup, justement, ça ne sera pas juste la petite phrase, c'est toute une partie du spectacle. Donc je vais les faire travailler dans une langue que je ne connais plus, et qui fait que chez moi, voilà, sur des choses tellement inconscientes. Et voilà, et on va raconter cette histoire ensemble. Donc, je ne sais pas comment ça va être, mais ça va être génial.
Est-ce que l'histoire du Mozambique, elle était dans votre tête au moment où vous jouiez avec Nordé le texte de Mouawad en français, ou est-ce que cette histoire-là et l'imaginaire de votre pays, il s'est ouvert avec justement ce projet traduit en portugais, oui, et rejoué au Mozambique?
Au moment où je le jouais avec Stan, c'était pas vraiment là, même si c'était là d'une certaine façon, parce que je jouais donc Nirad, qui est un jeune soldat, et le Mozambique, pendant toute mon adolescence, quand je vivais au Portugal, j'ai grandi toute mon adolescence en entendant parler de mon pays comme un des pays les plus pauvres au monde, un des pays où il y avait le plus grand nombre d'enfants soldats. Deux de mes cousins étaient des enfants soldats et qui après la fin de la guerre civile, n'avaient plus de vie, étaient alcooliques, qui sont morts complètement. Voilà. Donc, je ne peux pas aller sur le plateau jouer un homme qui est un enfant soldat et regarder les gens et dire oui, on tuait des enfants comme des pigeons, sans y arriver sur le plateau avec qui je suis et ma vie et les gens que je porte en moi, ils sont là, ils m'accompagnent. Donc, c'est donc évidemment Stan ne parlait pas du tout de ça, mais quand je vais sur le plateau, j'arrive avec qui je suis. Donc j'arrive avec tout mon bagage et toutes ces histoires de création de personnages, forcément, je fais avec. Donc, oui, le Mozambique et mon expérience étaient derrière. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose au Mozambique, grâce au soutien du Centre culturel franco-mozambicain, qui est heureusement et malheureusement la plus grande institution culturelle au Mozambique, Incendie est venu comme une évidence. C'était évident que c'était ça. Et quand je suis arrivé, donc, et que j'ai eu toute mon équipe et on a lu pour la première fois, comme je vous ai dit, et que tout le monde était surpris parce que c'était notre histoire, cette évidence est devenue encore plus claire. Donc, et voilà. Et ensuite, on a évidemment travaillé pour que ça soit clair aussi pour le public. Donc, mais ça a été, je pense.
Merci. On va parler des trois spectacles qui sont programmés au festival là. Arthur Nosiciel, depuis Le Malade Imaginaire, vous n'avez jamais cessé de travailler à l'étranger. Vous l'avez rappelé. Aux États-Unis, vous avez monté Black Battle with Dogs, Roberto Zucco, Abigail's Party, Jules César et Splendides. En Islande, le Musée de la Mer. En Corée, l'Empire des Lumières. En Slovénie, les Larmes Amères de Petra von Kant. Et en République Tchèque, donc, il y a un mois, La Ronde. Alors, une question justement sur ce spectacle. Dans La Ronde, il y a Berlin, le Berlin rêvé par Speer. Il y a la langue tchèque. Il y a l'anglais de la chanson Tinker Tailor Soldier. Et puis, il y a des fragments d'ailleurs encore, de manière au moins suggérée. La Pologne, semble-t-il, avec le train, à moins que ce wagon ne soit celui de Drancy, de New York, par la présence des masques qui font penser au Eyes Wide Shut de Kubrick, pour ne rien dire des costumes et des rituels autour de la sexualité, et de cette présence qui est pour moi très kubrickienne, du témoin, de celui qui regarde l'acte sexuel comme sujet principal presque de l'expérience sexuelle. Alors, où sommes-nous, Arthur Nosiciel, dans ce spectacle? On n'est pas seulement au bord du Danube, n'est-ce pas?
Eh bien non, Léla. vous êtes au théâtre. L'inspiration de la ronde, enfin, je dirais que la ronde écrite fin 19e et créée au début 20e, Schnitzler la retravaille un petit peu plus tard sous une forme, c'est mon interprétation, hein, mais sous une forme de nouvelle, qui est la nouvelle rêvée. Et la nouvelle rêvée, c'est presque l'adaptation sous forme de nouvelle de la ronde, et la nouvelle rêvée, c'est effectivement le scénario de Eyes Wide Shut. Et donc la position de celui qui observe n'est pas dans le film de Kubrick, elle est dans la nouvelle de Schnitzler, à laquelle Kubrick a été incroyablement fidèle. C'est-à-dire qu'on a du mal, quand on voit Eyes Wide Shut, à penser que Kubrick suit pas à pas Schnitzler, vraiment. Et donc tout ce qui est de l'orgie, etc., c'est dans la nouvelle de Schnitzler, et de comment les gens arrivent un par un en fiacre dans cet endroit, avec le code secret pour entrer dans cette maison et assister à ce qu'on retrouve dans la ronde, avec le tram qui dépose les gens, qui amène, au lieu d'un code, un lys, et qui leur permet ensuite de participer à cette orgie théâtrale, sexuelle et théâtrale. Mais le théâtre, il se construit justement de cette hybridation, à la fois de ce qu'on identifie dans la dramaturgie, et bien sûr, il y a toujours une histoire, il y a des histoires, un texte, il est toujours habité par les mises en scène précédentes, par les images qui peuvent vous y référer. Moi, j'ai jamais vu La Ronde, mais c'est vrai que j'ai vu Eyes Wide Shut, donc il y a sûrement quelque chose de Kubrick, de Schnitzler par Kubrick, de Schnitzler et de Schnitzler par Kubrick, mais il y a aussi, encore une fois, je pense, une histoire de la pièce. Par exemple, quand Victor parle d'incendie au TNB, ce qui était très beau, c'est que quand on présente le spectacle, on ne présente pas juste sa mise en scène d'incendie à Maputo, on présente l'histoire de ce spectacle, on présente la démarche de Victor allant là-bas, se reconnectant à son histoire, à ses origines, créant une troupe qui n'existait pas pour jouer ce spectacle. Et donc les spectateurs ici sont sensibles non pas juste au spectacle, mais à l'histoire de ce spectacle. Quand je fais revenir en France l'Empire des Lumières de Kim Jong-un créé en Corée, on ramène aussi une histoire de la pièce et dont elle est issue, c'est-à-dire une histoire de la division de la Corée, de comment l'histoire se transmet, comment les fractures de l'histoire vont se transmettre de génération en génération, et comment l'intime en fait est fait de ces déchirures successives, et comment nous sommes les porteurs de des histoires qui nous ont précédés. Donc amener l'Empire des Lumières, c'est aussi raconter quelque chose de la Corée, pas juste le spectacle, et de son émotion en Corée du Sud, ou de la découverte d'une histoire là-bas qu'on ramène avec un spectacle. Et donc, quelque part, pour La Ronde, c'est un peu la même chose. Il y a aussi une histoire de la pièce qui a été un des premiers livres brûlés par les nazis, une pièce que Schnitzler a voulu lui-même interdire en Autriche et en Allemagne parce qu'il ne supportait plus les attaques antisémites contre la pièce, qu'on a voulu penser être des attaques contre le sujet de la pièce, mais ça le dépassait largement. Quelque chose aussi de Prague, qui n'était pas hyper conscient au début, mais plus j'y étais dans les 2 mois de répétition, et plus ces intuitions de ramener l'Allemagne nazie, la montée du fascisme avec le plan de Speer, c'est-à-dire de la ville rêvée par Hitler mais qui n'existera pas, me permettait de faire arriver aussi les personnages d'un monde qui n'est pas un monde réel, mais qui aurait pu être un monde réel, mais le fait qu'il n'ait pas existé ne veut pas dire qu'il n'existera jamais non plus. Et ça permettait aussi de créer un lien entre le passé et le futur, et de mettre des personnages dans cet entre-deux, dans ces limbes aussi, entre le passé et le futur. Un monde qui a été pensé, mais parce qu'il a été pensé, il aurait presque pu arriver. Tout ce qui est pensé, à un moment, peut trouver sa traduction dans le réel. Et donc, j'avais envie qu'il y ait ce plan de Speer comme une menace, qui n'est pas juste une menace historique des années 30, mais une menace qui est toujours là. Et que, par ailleurs, étant à Prague, j'étais aussi, même si je ne l'avais pas vu venir, j'étais aussi dans une ville qui a été un berceau du judaïsme en Europe. Les plus vieilles synagogues, on raconte que le golem dort encore dans la plus vieille synagogue de Prague. Et donc, au bout d'un moment, on finit par voir ce qu'on ne voit plus, c'est-à-dire ceux et celles qui ont disparu. Alors, je relisais aussi Sebald quand j'étais là-bas, j'ai voulu relire Austerlitz, ce qui se passe à Prague. Et donc, j'avais envie, je l'ai rarement fait, mais là, je repassais par tous les lieux cités par Sebald dans le livre, qui raconte justement ce qui est advenu de la mère de Jacques Austerlitz, voilà, comment elle était raflée puis déportée. Et que finalement, cette présence de tous ces absents à Prague a fini aussi par nourrir le projet. Et que de manière très inconsciente, consciente, inconsciente, même s'il y avait l'idée de ce tramway, ce qui s'est passé qui n'était pas prévu, c'est tout de suite, mais que j'ai inventé comme ça quelques jours avant la première, c'est le moment où ils montent tous dans le train pour partir et qu'effectivement une image est apparue, qui était là de manière subconsciente, qui était là sans être là, mais que ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce travail avec le conscient et l'inconscient, et qu'à un moment on est traversé par quelque chose qu'on a mis en place de manière inconsciente, et qu'à un moment l'image apparaît et elle vous dit, c'est ça que t'as fait en fait. Et j'ai eu un espèce de choc en voyant, je me suis retourné vers Ricardo, qui est mon décorateur, qui est cubain, qui a aussi une histoire très compliquée d'exil entre Cuba, l'Argentine et les États-Unis. Et je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, t'as vu ce que j'ai vu? Et il m'a dit, oui, j'ai vu. Et après, il m'a dit, mais t'es sûr que tu le savais pas? Je dis, non, je savais pas. Mais c'est arrivé comme ça. Et d'un seul coup, le spectacle avait... c'était le cinquième élément, quoi. La chose qui allait donner sa perspective à l'ensemble. Parce que je peux pas faire la ronde en illustrant la ronde. Je peux pas mettre la ronde avec des gens... avec des jarretières, des guépières, des gens qui sautent au-dessus des canapés et qui se poursuivent dans les placards pour s'envoyer en l'air. Donc en fait, ça m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que raconte la pièce en creux. C'est comment on révèle aussi quelque chose de l'inconscient de l'auteur, comment on révèle un contexte et comment, si on lit bien un texte, et c'est ça que sert ce travail de table et de traduction, c'est une pièce qui n'est pas réaliste, c'est un rêve, c'est comme... c'est comme la nouvelle rêvée, comme Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés. Ça veut dire ça. Ça veut dire voir au-delà du visible, quelque chose qui est là et qui est. Et donc la pièce commence par Viens mon ange. Et il y a quelque chose qui amène déjà dans un autre univers et qui se termine par Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Et la réponse c'est Bonne nuit, bonjour, bonjour. Bon, voilà. Et il y a quelque chose vraiment d'onirique. Et donc, je ne comprends pas les adaptations naturalistes de la ronde. Vraiment, je ne comprends pas. De toute façon, je ne comprends pas le théâtre naturaliste. la ronde, c'est vraiment un rêve éveillé. Et donc, avec des personnages qui se questionnent toujours sur la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui me plaisait, c'était ça. C'était de mélanger l'histoire, la petite histoire, l'histoire intime, cette quête d'amour... qui n'est jamais rassasié, puisqu'en fait, ce monde en train de collapser est un monde qui n'est plus mené que par l'argent, et où il n'y a plus ni spiritualité ni amour. Et donc, dans cette quête effrénée où le sexe est devenu un truc d'échange, en fait, un truc qui permet... Chaque relation sexuelle permet d'accéder à un nouvel échelon social dans la pièce, c'est de s'élever socialement. Mais il n'est jamais question d'amour, il n'est jamais question d'échange. Les personnages... Le texte, les personnages restent tout le temps à la surface. Il n'y a jamais de profond. Il y a une séparation de l'âme et du corps en permanence. Et donc, c'était ça aussi. C'était séparer le haut et le bas, l'âme et le corps. Et c'est Eros et Thanatos complètement. C'est-à-dire aussi cette sexualité en danger de mort, qui est la syphilis, mais qui a été plus tard le sida, qui est la montée du fascisme, qui est l'invention du capitalisme qui commence à prendre des formes de plus en plus violentes. C'est ça la ronde, c'est pas juste des gens qui s'en vont en l'air. Donc il y avait voilà, à la fois dans la scénographie, dans le traitement physique qu'on a fait avec Fia sur justement la sexualité dans l'œil de la personne qui regarde et dans une façon de l'interpréter de manière carnavalesque, enfantine et burlesque et en même temps primitive, voilà, c'était d'opter de toutes ces séparations dont je vous parle et d'assembler tous ces éléments qui ont nourri le spectacle. Donc à la fois une histoire de la pièce, puis la création dans un contexte aussi particulier, dans une ville entre Vienne et Prague, il y a trois heures de train. Enfin, donc dans un endroit qui a été quand même un berceau de l'Europe, de ce qui nous constitue.
Robin, je vais vous poser aussi une question qui concerne l'espace par rapport à WeWare. Dans ce spectacle, vous nous faites voyager dans l'espace et dans le temps. Nous sommes dans les rues de Johannesburg, du temps de l'apartheid, avec ces hommes chevaux qui tout à la fois répètent et délirent les actions des rickshaws. Mais nous sommes aussi, de manière très affirmée, dans l'ici et maintenant de Rennes, novembre 2022. Les spectateurs sont invités à s'engager dans la représentation avec leur corps, leur voix, et à communier, pour ne pas dire prier, avec les danseurs autour de la mémoire de ces travailleurs rickshaw. Est-ce qu'on peut dire que ce spectacle est définitivement ouvert sur le monde, mondial peut-être, aussi parce qu'il embrasse précisément la foule nécessairement cosmopolite des spectateurs? Qu'est-ce que vous cherchiez avec cette communion avec la salle?
Normally, I come from a country where if you like what you're seeing, you throw money in the stage, or you, if you don't like the character, you stand up and you shoot the screen, or if you, I mean, there's an automatic audience participation, which is not the case in most other countries and continents.
Bon, alors en fait, moi je viens d'un pays où finalement le public participe toujours. En fait, si on aime bien ce qu'on voit, on a tendance à jeter peut-être des sous sur la scène ou autre. Et si on n'aime pas, eh bien on peut envoyer n'importe quoi d'autre. En fait, le public a toujours participé. Je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture de mon pays aussi et qu'on ne vous retrouve pas dans d'autres pays.
And this is the case in a lot of my pieces. I made this piece during the lockdown. During the several bouts of COVID, and I realized it was going to be very difficult to. I believe in audience participation, not just because they want to participate. I don't want them to feel they have to participate. So it's a different kind of thing. In the beginning, I used it differently, but when I was making work earlier, but. I wanted the audience to understand what it's like to really be in a rickshaw, to really pull a rickshaw. And in the time of COVID, it was almost impossible. So we did the best we could. And I'm sure had it not been COVID, I would have been more divisive and found other ways of including the audience in this experience. The thing about the rickshaws is the rickshaws were basically slaves. They were called horses, jokingly, by the Zulus, because the Zulus have a great sense of humor, because we Africans do have a very good sense of humor. But there's something incredibly sad, and the only way I could actually do it was at the end. To have that epitaph about what's happened to the Zulus.
D'ailleurs, en fait, si on regarde le travail que j'ai pu faire par le passé, ça a toujours été le cas. J'ai toujours cette participation du public. Et en fait, cette pièce est une pièce que j'ai écrite pendant le confinement, entre les différentes vagues de confinement à cause du Covid. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré voir le public participer, mais je n'ai pas non plus envie qu'ils se sentent forcés de participer à cette pièce. En fait, ce que je voulais ici, c'est je voulais vraiment que le public comprenne ce que ça voulait dire être conducteur de pouce-pouce. Mais forcément, c'était quelque chose de très compliqué à mettre en place à cause du Covid, et je pense que je les aurais peut-être inclus de plein d'autres manières différentes dans la pièce si il n'y avait pas les restrictions du Covid qui étaient en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conducteurs de pouce-pouce étaient vraiment de véritables esclaves. Et s'ils sont appelés chevaux, c'est uniquement parce que les Zoulous et les Africains, de manière générale, ont un grand sens de l'humour. Mais il ne faut pas oublier que c'est une histoire qui est profondément triste. Et c'est exactement pour ça qu'à la fin, je voulais vraiment faire cette épitaphe qui parle de ce qui est arrivé à ces personnes.
I know a lot of my work, people have to think about it afterwards. I'm not critiquing French audiences or European audiences. I mean, they get very excited afterwards and they have dinner and they discuss the show. I'd like them to do it during the show. And I'm not sure how to do that yet. I'm still trying.
Et en fait, je sais que mon travail fait beaucoup réfléchir, notamment les Européens. Et je sais que, alors sans vouloir critiquer bien évidemment les publics français, allemands ou autres, mais je sais que généralement, ils regardent ma pièce de théâtre et puis ils rentrent chez eux et ils en discutent autour d'un bon repas. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'ils réfléchissent à mon travail pendant qu'ils sont en train de regarder la pièce. Alors, j'ai pas encore compris comment le faire, mais j'y travaille.
I mean, admittedly, in Theatre de la Ville, if they don't like the show, they slap the seats and they walk out. That's the most you can get from or a person walking out during a show. You know, it's that's a big statement. It's a contribution. But what was your other question? You asked me two questions about the audience. And
oui, je réponds en anglais.
And if it's sorry. And if it touches foreign people, I think slavery is a worldwide phenomena, which has happened over centuries and continues to happen in different ways, and we need to talk about it. And I also need to celebrate heroes from the apartheid system that have never been recognized. So that was the function of this piece.
En fait, le pire qui puisse arriver, je pense, en Europe pour le public, s'il n'aime pas le spectacle, c'est tout simplement de sortir de la salle. Ça, c'est quand même un signe assez, assez fort. Et pour revenir à la deuxième question que vous m'aviez posée, voilà, en fait, l'esclavage, c'était un phénomène mondial qui a perduré pendant des siècles. C'est un problème que nous avons encore aujourd'hui. Et je pense que c'est un phénomène dont il faut parler. Et en fait, moi, je voulais vraiment rendre hommage aux héros de l'apartheid qui ont toujours été invisibles jusqu'à présent. C'était vraiment la fonction première de la pièce que j'ai écrite.
What is hard for me in this piece is to watch how everybody finds it so entertaining and beautiful. But this is actually what the rickshaws were about. They were phenomenal. I thought they were angels when I first saw them as a child. I said to my mother, who are these flying angels? And she then told me the story and the reality of them.
En fait, ce que je trouve le plus difficile quand je vois le public réagir à ma pièce, c'est que pour beaucoup, cette pièce, elle est belle, elle est divertissante. Et en réalité, c'est toujours été ce qui était aussi derrière les fameux rickshaws. Moi, quand j'étais petite, la première fois que j'en ai vu, j'étais fascinée. Et la première chose que j'ai dit à ma mère, c'est « Mais qui sont ces anges qui courent partout, qui volent ?» Pour moi, c'était quelque chose de beau. Et puis ma mère m'a raconté l'histoire de ces personnes. Et là, j'ai compris l'envers du décor.
C'est tout.
Victor, ma dernière question, elle est pour vous. Elle porte sur Limbo. Dans ce spectacle, vous gardez l'immobilité pendant 1h40. Le corps droit, très ancré, vous vous adressez à la salle sans bouger, comme si vous la preniez entre quatre yeux. Et ce face-à-face, vous ne le lâchez qu'au salut. Mais ce corps immobile, vous ne cessez de l'ouvrir à l'autre, en le laissant se faire traverser par vos ancêtres, et puis par d'autres vies que les vôtres, que celles de votre famille, j'entends, et notamment celles des Afro-Américains dont vous parliez plus tôt. Est-ce que c'est votre corps, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce que c'est votre corps qui devient monde dans Limbo et par là même qui résout la contradiction identitaire autour de laquelle que vous questionnez tout au long du spectacle, est-ce que je suis blanc, est-ce que je suis noir, est-ce que c'est pas dans votre corps précisément en ce qu'il est, il devient monde, que cette contradiction se résout et est dépassée?
C'est tellement bien dit que du coup c'est difficile à répondre parce que enfin il me semble que vous voyez des choses que pour moi peut-être je suis pas encore, je sais pas encore. Cette immobilité dont vous parlez, en fait, elle est venue parce qu'à un moment donné, justement, donc dans cet espace qui a été créé, donc j'ai créé l'espace tout seul, je n'avais pas suffisamment de fonds, d'argent pour travailler avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai pensé un espace dans lequel il me semblait être juste. Et ensuite, voilà, quelqu'un est à l'intérieur, un acteur est à l'intérieur, en l'occurrence moi. Et ensuite, quand les textes ont commencé à venir et quand j'ai commencé à travailler en répétition, plus j'essayais des choses dans cet espace, plus le mouvement me semblait pas juste, me semblait trop fabriqué. Et j'ai toujours été dans ma formation et même pendant une bonne partie de mon travail d'acteur, on m'a toujours parlé de moi comme un acteur physique. Donc je sais pas, bon, un acteur qui, bon, parce que j'ai aussi travaillé avec des chorégraphes, mais au-delà de ça, voilà, mon corps passe. Enfin, les mots passent par le corps, donc mon corps, il vit et il bouge, et même s'il est presque immobile. Donc, de cette chose-là, à un moment donné, il a fallu justement trouver pourquoi je dois bouger. Alors, si je n'ai pas une raison de bouger, je ne bouge pas, surtout dans cet espace-là. Donc, et ça, c'est quelque chose aussi que, enfin, si l'acteur s'il n'y a pas une raison pour que j'aille de A à B, pourquoi le ferais-je ? Donc, il n'y a aucune raison. Donc, s'il n'y a pas de raison, tu restes. Et ensuite, ce que peu à peu, ce qui est venu de cette mobilité et comment j'entre dans le corps et j'entre dans les mots, et là, les mots, ils passent vraiment par le corps. Oui, ça, il y a quelque chose qui me dépasse parce que il y a tellement de... Comment vous dire, oui, les mots, ils sont là et ils sont donnés. Et il y a beaucoup de choses. Chaque représentation est vraiment très particulière parce que la partition est la même, mais la façon que j'ai de la jouer n'est jamais exactement la même. Donc, jamais, vraiment. Et sur chaque chose, sur chaque partie du texte et sur chaque moment, même quand ce sont les mots du père qui me traversent, ou qui est celui qui bouge le plus, disons comme ça, parce qu'il est vraiment comme ça, il y a quelque chose, oui, qui me dépasse. Et ce n'est pas simplement une question de travail d'acteur. C'est autre chose qui se joue, et c'est en cela que j'ai un peu du mal à vous répondre, parce que je ne sais pas encore. Peut-être que d'ici quelques temps, quand j'arriverai je ne jouerai plus Limbo, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera plus évident pour moi. Mais aujourd'hui encore, je ne sais pas vraiment, hier encore, je parlais avec quelqu'un à la fin qui me disait des choses qui m'ont tellement surpris. Où ça va, je ne sais pas. Et donc, j'ai vraiment du mal. Votre question, elle est tellement bien que elle va rester. Il va falloir que je réfléchisse vraiment parce que je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore.
Arthur, tu voulais réagir ?
Parce que je pense que le lieu de la mémoire, c'est le corps. Donc, alors qui plus est pour l'acteur ou l'actrice, quelque part, ou le danseur, l'interprète, mais le lieu de la mémoire étant le corps, il se passe des trucs.
Merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, est-ce qu'il y a des questions ? On a peut-être 10 dernières minutes pour des questions.
Bonjour, merci. Moi, je me demande comment vos projets, vos postures d'artistes associés, de directrices de théâtre public, interagissent avec des États qui sont parfois et souvent peut-être sexistes, transphobes, coloniaux, et qui bâtissent des frontières qui vont de la Méditerranée à la porte d'un théâtre, avec des projets qui sont avec des projets engagés dans des histoires qui parlent de la colonisation, mais dans un monde qui n'a pas fini de coloniser. Du coup, je me demande comment vos postures et vos projets interagissent avec l'État comme entité, avec un majuscule, un E majuscule.
Enfin, je sais pas, c'est des expériences qui sont à chaque fois tellement différentes, tu peux pas les généraliser comme ça, en fait. Et je pense vraiment, enfin, ça a l'air banal de dire ça, mais je pense que c'est quand même ce chantier-là qui est opéré par plein d'artistes dans plein d'endroits, avec des œuvres qui circulent, c'est quand même une des meilleures façons d'irriguer et de à la fois de soulever les questions, de rencontrer un public pour ça et d'impliquer des artistes et des gens qui y participent. Enfin, je pense que le... Et puis, en fait, Moi, j'ai aimé travailler dans des pays compliqués comme ça. Parce que les choses, elles sont jamais... c'est jamais noir et blanc, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, j'ai travaillé dans des pays avec des... Par exemple, alors c'est des expériences différentes, mais avec une censure, avec vraiment des gens qui viennent, des renseignements généraux, qui viennent voir les répétitions, qui vous demandent de couper des choses, qui... et c'est extrêmement violent. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui viennent... parce que moi, je suis extérieur, donc je peux dire, en faisant un spectacle, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux et vous débrouillez après, je rentre dans mon pays. Mais les gens y restent, il y a des gens qui travaillent sur ce spectacle, il y a des gens qui ont investi du temps, qui ont investi des moyens, qui... donc c'est pas à moi de prendre la décision, par exemple. Quand j'ai eu à prendre des décisions, j'ai voulu les prendre avec les gens sur le plateau, avec les acteurs et les actrices sur le plateau, pour savoir c'était eux qui allaient être en danger, pas moi. Moi, j'allais rentrer. Donc en fait... enfin ça, bon, ça c'est un cas particulier de pays où il y a une censure forte, mais à part ça, s'il y a vraiment un champ où on peut contrer la question de l'assignation, c'est quand même encore le champ de l'art. Public et ou privé. Mais pareil, public, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que public ici n'a rien à voir avec public aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec public en Afrique du Sud ou je ne sais où. Donc, et privé ne veut pas dire la même chose ici et dans un autre pays. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question de manière un peu générale, je crois.
I'm not quite sure I understood your question.
Je ne suis pas vraiment sûre d'avoir compris votre question, je suis désolée.
But I'm going to try and answer something, and I'm going to talk slow. I'm going to talk shorter, so I don't talk long.
Je vais essayer d'y répondre quand même, et je vais essayer d'être brève et de faire des pauses.
But as a person that makes work, I cannot control everything.
En tant que personne qui écrit des pièces, je ne peux pas tout contrôler de bout en bout.
I cannot. There's a point at which I have to give a piece over to the performers and hope they have embraced it in the way we worked.
À partir d'un moment, en fait, je dois juste laisser la pièce aux acteurs, aux actrices, et j'espère qu'ils réussiront finalement à se l'approprier de la bonne manière, ou en tout cas de la manière sur laquelle nous avions travaillé ensemble.
But when it comes to the public, I have absolutely no control.
Mais je n'ai aucun pouvoir sur le public, je ne peux pas le contrôler, ni contrôler ses réactions.
When I did the opera at the Paris, when I worked with the opera, the second night.
Alors j'ai travaillé avec l'opéra, et lors de la deuxième nuit de représentation,
the manager of the theater said to me to please exit out of the main entrance. Because there was a man at the back, at the artist's entrance, waiting for me. He wanted to kill me.
Il y avait le gérant de l'opéra qui m'avait demandé de sortir par l'entrée principale parce qu'en fait il y avait un homme à la sortie, donc à la sortie des artistes, qui m'attendait et qui voulait me tuer.
I was petrified. I mean, I was really scared. I mean, I'm a foreigner in France, and some opera lover is very angry with me, and they want to kill me.
T'es pétrifié. Hein. J'étais mort de peur parce que. Je venais en France et il y avait quelqu'un qui était tellement en colère contre moi qu'il voulait en venir aux mains et me tuer.
I can't control him.
Je ne peux pas contrôler cette personne.
In the same way as the dancers went on strike because of me. The corps de ballet went on strike because of me, because they didn't like what I was doing, which was deconstructing their world. They didn't like that.
C'est les danseurs qui ont fait grève à cause de moi, parce qu'en fait, ils n'aimaient pas ce que je faisais, ils n'aimaient pas le fait que je, finalement, déconstruisais complètement leur monde et le monde que je voyais.
And the premise of this opera was I couldn't work with African dancers, I couldn't bring Africa into the opera, I had to work with the opera dancers, so I worked with the situation, it was the first time I worked with incrustation, and... I brought up a lot of questions that the dancers couldn't, it was difficult for them to handle. but at the same time I also gave them power because of the way I work. So when Brigitte Lefebvre said to me, "You've given the dancers too much power," I said, "No, it's absolutely fine. If they don't want to do the piece, we find a way to establish why they don't want to do the piece." And I think these things are very important. When I said to them, "Okay, how many black dancers are there in your corps de ballet? How many black friends do you have? How many black people are there in this building?"
Et donc, selon les conditions de l'organisation de la pièce, je ne pouvais pas venir et travailler avec mes propres danseurs, donc je devais travailler avec les danseurs de l'opéra. Et je devais faire avec, c'était vraiment une première pour moi. Et j'ai soulevé beaucoup de problématiques, beaucoup de questions qui étaient très difficiles à gérer par les danseurs. Et en même temps, je leur donnais quand même beaucoup de pouvoir grâce à ma manière de travailler, grâce aux questions que je soulevais, aux problématiques que je soulevais. Et Brigitte Lefebvre me l'a reproché. Et moi, je lui ai dit, mais non, ce n'est pas un problème. Si les danseurs ont trop de pouvoir, s'ils ne se sentent pas capables de faire la pièce, ce n'est pas grave, on va travailler ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi c'est trop dur pour eux.
So, there's a certain amount of stuff I can't control. But there's certain things I know I need to do. The rickshaw piece was... everything was secondhand. The costumes, the hats, all the crocheting was done by a group of women, refugee women in Berlin. I mean, there are ways that you have to start working. And I think more and more it's going to be stronger and stronger because the money is going to get less and less for us.
Et par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai dû changer. Et malgré tout, je sais pourquoi je fais les choses et comment je dois les faire. Et par exemple, pour le spectacle du rickshaw, tout était des produits, enfin, on a utilisé que des produits de seconde main. Donc par exemple, le crochet était réalisé par des réfugiés à Berlin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur, parce qu'on a de moins en moins d'argent. Et donc ça va devenir finalement inévitable de travailler de cette manière.
Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, et il y a une chose dont on a parlé tout à l'heure et qui est importante, c'est que pour moi, tout acte artistique est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, je ne crois pas vraiment à des actes neutres. Donc, et dans les projets qu'on essaie de mener, en fait, à un moment donné, de le faire quelque chose à tel endroit ou à tel endroit, ça a une importance et pour nous et pour le public forcément. Donc moi, par exemple, quand je suis allé créer Incendie au Mozambique, en prenant appui l'histoire du Mozambique et en parlant de la guerre civile, je savais très bien que ça allait soulever un tas de questions, que ça allait être extrêmement compliqué. Et évidemment, ça l'a été. À partir du moment où je parle d'une guerre civile qui est finie il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était fini en 92, qui est un sujet tabou dont on ne parle pas dans un pays qui est une démocratie un petit peu comme ça, dans laquelle c'est dangereux, c'est un acte artistique, c'est un acte politique, même si je ne fais pas de politique, je fais du théâtre. Voilà. Donc, mais à un moment donné, quand je pose ces questions-là, quand je mets des images d'archives sur le plateau et que ces images d'archives, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui sont dans ces images, et quand le jour de la première, il y a le maire de Maputo qui arrive avec ses bodyguards, il y a armés, tous armés, évidemment. Quand il y a les gens du ministère, quand il y a les gens des anciens combattants, et qu'il y a quelqu'un qui me dit, bon, écoute, on va voir si soit ils sont pour le Frelimo, donc qui est le parti au pouvoir, soit ils sont pour le Renamo, donc peut-être qu'ils vont se dire que tu es pour le Frelimo ou pour le Renamo. Donc d'être à cet endroit où je peux être pointé du doigt, et quand je dis pointé du doigt, c'est pas juste comme ça, c'est être amené quelque part et être dans un endroit... Forcément, je préfère ne pas y penser parce que sinon je le fais pas. Sinon, j'y vais pas. Évidemment, après, je peux parler au téléphone avec mon père qui me dit « Mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Ça va être dangereux. » Mais il faut que je le fasse. Et ensuite, bah, comme dit Robin Orlin, je sais pas ce qu'ils vont voir. Donc, et heureusement, il y a juste une personne qui est partie. Mais ça, le reste du public était content, les gens se sont levés, les gens étaient extrêmement profondément émus, parce que justement ça, c'est ça aussi le rôle du théâtre, c'est que ça va au-delà juste de l'histoire d'être pour ou contre et de juste ce que chacun d'eux voit et ce qu'il voit, c'est l'histoire de ces personnages, c'est l'histoire de Nawal et de ses enfants, donc dont Incendie, c'est l'histoire de Nawal et ses enfants. Il y a autour de ça toute la guerre, les uns et les autres, mais c'est l'histoire de cette femme et de ses enfants. Et ensuite, c'est l'histoire du pays, mais l'histoire du pays, moi, je fais juste du théâtre. Donc après, ce que les gens voient, c'est à eux de voir comment ça résonne chez eux. Mais évidemment que ça peut être dangereux, mais on le sait. Et on le fait quand même.